It was especially hard for New York and everyone around the United States. I just want to say that I hope I can be as strong and as resilient as New York has been the past 20 years.
Wow! Quel beau moment. Après la défaite, ça nous réconciliait avec le fait qu'elle ait perdu finalement que cette déclaration. Et c'était un moment magique et c'est assez drôle sans rien enlever là, parce que c'est toute une performance que Emma Raducanu a livrée pendant tout le tournoi pour l'emporter samedi. Puis il faut absolument rien lui enlever, mais c'est sûr que de notre perspective, alors qu'on avait beaucoup d'affection pour Leila et tout ce qui tournait autour d'elle, ben il y avait une certaine déception de la voir perdre, mais ça a été comme une espèce de bombe sur le fait qu'elle ait perdu le match, mais gagné d'une autre façon. Avec nous, il a été son entraîneur pendant de belles années, là, alors qu'il l'a rencontré. Il nous racontait son histoire la semaine dernière jusqu'à tout récemment, toujours en contact avec Leila et M. Fernandez, Francisco Sanchez, entraîneur de tennis. Bonsoir, Francisco.
Bonsoir, Mario.
Comment tu vas bien? Ben oui, je vais bien. Toi, comment tu as vécu la finale, puis tout ça, finalement, là, avec toute la tâche émotive qu'on te connaît envers Leila et son paternel?
Ben oui, c'est sûr que j'ai été très déçu comme beaucoup de monde, mais bon, écoute, la vie continue. Ce que je lui ai dit là, c'est tu gardes le plus positif de ces deux grandes semaines que tu as faites, et puis la prochaine finale, ça va être pour toi, c'est sûr.
Comment tu penses, crois-tu que penses-tu, c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui va dire je regrette d'avoir gagné là, mais parfois gagner vite peut-il être un cadeau, je dirais pas empoisonné, mais qui est un autre côté de la médaille. Vois-tu un aspect, tiens, positif au fait qu'elle n'ait pas gagné en fin de semaine? Est-ce qu'elle va en gagner 3-4 de plus sur sa carrière à cause de ça?
Ben, positif. C'est mieux de gagner, hein, ça c'est sûr. On va pas se mentir. Mais c'est sûr que la connaissance, elle va se battre. De toute façon, elle allait quand même continuer à s'entraîner, à se battre pour continuer à performer au maximum. Mais là, elle va vouloir avoir sa revanche le plus vite possible, ça c'est sûr et certain. Elle va se donner les possibilités de ça. Après, voilà, écoute, par rapport au match, elle a, faut reconnaître qu'elle m'a un petit peu déçu dans le sens qu'elle n'a pas réussi à s'adapter aussi bien que l'autre, qui Raducanu a fait un match incroyable, un tournoi incroyable. Elle a été plus à la hauteur de l'événement, étonnamment, de la finale Raducanu que Leila. Alors que Leila est quand même plus forte qu'elle, tennistiquement, mais Raducanu a beaucoup mieux géré la pression et le stress et tout ça, quoi. C'est ça qui a donné la victoire.
C'est ce que tu as vraiment perçu dans la performance de Leila. As-tu revu une Leila que tu avais vue en d'autres circonstances avant qu'elle vive cette quinzaine magique?
Ben oui, c'est ça qui était. Je discutais un peu avec son père. C'est ça que, malheureusement, elle est revenue un petit peu en arrière avant de faire cette quinzaine magique, comme tu dis. C'est comme un petit peu comme à Montréal. Elle était un peu moins sûre, moins offensive, moins agressive. Et là, ça pardonne pas. L'autre est là. Elle a joué un jeu magistral. Elle ne s'est pas posée de questions.
Il y a Andy Roddick qui a dit que ces deux jeunes femmes-là étaient un cadeau pour le tennis dans l'ensemble, pour le tennis féminin. Il n'y a pas de garantie que ces filles-là vont se retrouver encore dans des finales dans un an ou dans 3 ans ou dans 7 ans. Mais si tu avais un pari à prendre, Francisco Sanchez, aurais-tu envie de penser que ce sont deux jeunes femmes qui vont soit faire partie d'un groupe qui va dominer le tennis ou qui seront parmi celles qui vont dominer le tennis féminin?
Écoute, je connais pas personnellement Raducanu, je la connais depuis les juniors, parce que j'ai vu beaucoup de matchs qu'elle a joué, mais je connais pas personnellement comment elle va vivre, comment elle peut vivre son après-victoire, les sponsoring, la star, cette vie médiatique, comment est-ce qu'elle va le vivre. On en a déjà vu d'autres, même ici au Canada, on va pas nommer, mais qui l'ont vu, qui ont vécu ça un peu plus difficilement. Alors, je sais pas comment elle va réagir, mais en tout cas, c'est sûr que dans cette année-là, il y en a d'autres encore que le public connaît pas, mais des 2002, comme Leila, comme Raducanu, il y en a encore 2-3 qui sont très bonnes, là, une danoise, il y a quelques bonnes joueuses encore qui sont là, qui vont être le futur, ça c'est sans aucun doute. Sans aucun doute, oui.
Donc, j'ai pris un raccourci un peu rapide, puis je me fie à toi qui es un expert, parce que j'ai tenté, dans ma modeste perception de ce que j'ai vu en fin de semaine dans la finale masculine et dans la finale féminine, de penser qu'il peut peut-être y avoir un peu de fatigue du côté de Djokovic, compte tenu des matchs qu'il a livrés pour se rendre en finale, sans rien enlever à Medvedev, qui est impérial, qui joue un tennis presque parfait, presque impeccable, comme ça a été le cas contre Félix. Puis j'ai eu envie de penser que, ben, elle est là peut-être aussi, encore là, sans rien enlever à Raducanu, que les batailles qu'elle a livrées pour accéder à la finale, ben, l'émotion, l'éclosion, tu deviens une vedette pendant la semaine. tu sais, je voulais pas leur trouver des excuses, mais on peut, peut-on y voir un parallèle d'une certaine fatigue physique ou mentale, autant chez Djokovic que Leila Fernandez, bien qu'on parle de, du monarque de son sport face à quelqu'un qui entre sur la grande scène en ce moment-là?
Non, non, tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça qui a joué. C'est d'abord une fatigue mentale. Et mentalement, c'est le physique. Quand le mental n'est pas là, le physique ne suit plus. Donc, c'est sûr que Leila était très lente. C'était ça qui m'a vraiment le plus frappé dans cette finale. C'est qu'elle bougeait pas comme d'habitude. Elle était vraiment lente, souvent en retard. Tu sais, donc, c'est sûr que, et Djokovic, c'était pareil. C'est mentalement, c'était très difficile pour lui. Il voulait gagner ce grand chelem. On en parle depuis je sais pas combien de mois. Il s'est mis beaucoup de pression. Il est arrivé et il était à un pas et il n'a pas réussi. Et Leila, elle était un peu favorite dans ce match. Et ça a été un peu pareil, là. Elle n'a pas eu cette même... le mental n'a pas suivi au moment clé, là. C'est ça qui est dommage.
Francisco, je sais pas si tu es à l'aise. Je te lance une question ce soir. Je veux provoquer une discussion avec les gens. Je vais parler avec des gens issus de d'autres sports qui ont des fils ou qui ont été entraînés par leur père, dont Stéphane Lebeau qui sera avec nous, qui avait un père très exigeant. Et c'est pas de parler de Leila, là, proprement dit, vraiment pas, parce que ça se ferait pas, puis je veux pas te mettre dans une situation. De toute façon, c'est une belle histoire. L'implication de son père, et c'est là que je veux aller. Pour avoir une meilleure chance de devenir un athlète d'élite, vaut-il mieux avoir des parents qui nous poussent? Puis là, c'est sûr que la discussion, jusqu'où pousser, là, mais, ou tu sais, je pourrais la poser d'une façon différente. Qu'est-ce qu'un parent idéal pour un jeune ou une jeune qui veut éventuellement faire partie de l'élite d'un sport? Et je suis convaincu que dans toutes tes années d'entraînement avec Leila et d'autres, Francisco, tu as sans doute déjà réfléchi à ça. Je serais curieux de t'entendre si tu veux bien partager ton opinion là-dessus.
Mais oui, avec plaisir. Mais écoute, d'abord, je veux dire qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un père qui est trop présent, qui est bon pour un et qui n'est pas bon pour l'autre. Donc, il n'y a pas de formule magique. Quand j'ai vu Leila, quand j'ai vu son père, d'abord au début, George avec Leila, j'ai tout de suite vu que le père était extrêmement impliqué, extrêmement exigeant, qu'il maîtrisait tout, qu'il dominait tout. De l'extérieur, je l'ai vu, ça, il n'y avait pas dès le premier jour, là, parce que j'avais déjà eu l'expérience avec des pères comme ça plusieurs fois. Donc ça, c'est toujours dangereux, bien sûr, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Dans le cas de Leila, ça a quand même porté ses fruits. Elle était, regarde où est-ce qu'elle est arrivée, mais ça n'a pas été le cas comme ça pour tout le monde. Et puis aussi, il y a le côté émotionnel, parce que quand c'est la famille, c'est très difficile. Tu veux plaire à tes parents, mais après, le père ou la mère, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est très compliqué. Là, c'est pas le coach. Il faut parler des vraies affaires. C'est très émotif. C'est compliqué. Mais dans ce cas-ci, ça marche, mais on a beaucoup d'exemples où ça n'a pas fonctionné. Ça, on pourrait en citer plein, là.
Certainement. Puis, je lisais plusieurs articles, entre autres. Je sais pas si t'as lu la biographie d'André Agassi, Francisco Sanchez, qui parlait de son père, qui est extrêmement exigeant, Mike Agassi, qui était un boxeur, qui faisait des paris sur son fils. D'ailleurs, il avait déjà affronté Jim Brown. Il avait 9 ans à ce moment-là à Las Vegas. Et il s'est organisé pour attirer un maximum de gens, pour que les gens viennent voir son fils de 9 ans affronter la légende de la NFL dans un match de tennis. Il avait parié 5000 $ sur son garçon et André Agassi a battu Jim Brown, la légende. Et ça, c'est juste, ça, c'est cocasse. Mais aussi, juste pour donner un autre aspect, sans entrer dans toutes les intrigues, quand il avait gagné Wimbledon, je crois que c'était en, l'année m'échappe, c'est en
88, je pense, je suis pas sûr.
Quand il avait gagné en 5 manches, ouais, en tout cas, dans ce coin-là, je pense même peut-être 92, Francisco, mais.
OK.
Mais il avait raconté que son père, au lieu de le féliciter d'entrer de jeu, après sa victoire à Wimbledon, lui avait dit « t'avais aucune raison de perdre le quatrième set ».
Écoute, oui, ça ne me surprend pas.
C'est en 92.
En 92, c'est ça, OK. Ça me surprend pas. En plus, il avait gagné, si tu imagines.
Imagine!
Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui me surprend. On entend ça souvent. C'est très émotionnel, c'est très dur. Mais ces parents-là, ils adorent leurs enfants plus que tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr que écoute, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, le côté émotionnel, le côté peut-être de vivre quelque chose que le père n'a pas vécu, j'en sais rien, hein. Je parle pour ce cas-là, mais je ne sais pas, mais toutes les affaires sont différentes, en tout cas, je peux te dire.
Tout à fait. Et avec ton expérience, de façon plus large, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui atteint les sommets dans un sport, dirais-tu que, je sais que c'est un peu de tout, mais juste ta réponse avant de te quitter, dirais-tu...
La différence, elle est simple. Si tu veux arriver, c'est avec Leila, c'est ce qu'on a toujours fait. On faisait toujours tout à l'envers des autres. Écoute, c'est pas pour dire du mal ou quoi que ce soit, mais si tu veux arriver, tu peux pas rentrer dans la ligne avec tout le monde parce que sinon, c'est surtout dans un sport individuel, ça va être très difficile que si tu fais exactement la même chose que les autres, tu vas arriver au top. Ça, c'est pas possible. Donc, avec Leila, on faisait quasiment toujours l'inverse des autres. et de ce qu'on nous proposait et de ce qu'on nous disait. Écoute, c'est pas pour dire, mais c'est la réalité. Si tu regardes Rafael Nadal, tu vas voir que son coup droit est totalement différent des coups droits des autres joueurs. Alors, s'il avait été dans une académie bien, bien spécifique, il aurait pas eu son oncle, on l'aurait corrigé son coup droit, on l'aurait dit, écoute, ce coup droit-là, tu vas te casser le poignet comme ça, change ça rapidement, et il n'aurait jamais gagné autant de grands chelems ni de Roland-Garros. Tu vois, donc, il faut faire quelque chose de différent, sinon tu peux pas y arriver au top, là, ça c'est sûr.
Différent, veux-tu le dire, plus exigeant, plus dur, plus...
Pas spécialement, ça peut être, oui, ça peut être quelque chose de différent. Donc, dans le cas de Leïla, c'était jouer vraiment très proche de la ligne de fond. Tout le monde me traitait de fou. Il me disait, mais qu'est-ce que tu lui apprends? Tu l'as fait jouer sur la ligne de fond, elle peut pas reculer. Comment elle va frapper les balles en volée ou en demi-volée? Je sais pas si tu as vu, elle s'accroupit presque sur la ligne pour attraper les balles quand elles sont très profondes. Mais tu vois que elle qui fait ça. Et les gens me disaient, mais ça n'a pas de sens. Elle va pas réussir comme ça. Je dis, mais oui, mais si elle recule, elle va aller trop loin. Elle est trop petite. Elle pourra pas revenir après sur la ligne. Et tu vois, donc c'était vraiment quelque chose de différent. On s'est toujours entraîné à faire des choses différemment des autres. Beaucoup de volées. Elle fait beaucoup de volées. Les autres filles ne font pas de volées, par exemple. Et toutes des choses différentes qui ont permis qu'elle a un jeu totalement différent, exceptionnel, qui la démarque des autres joueuses.
Et j'ai très hâte de voir toutes les autres joueurs et peut-être des joueuses qui vont imiter le style de Leïla maintenant qu'elle vient de prendre part à une finale. Francisco, merci pour ces belles minutes et merci pour ta générosité avec nous. Ça a été fort instructif de s'entretenir avec toi encore ce soir.
Avec grand plaisir, Mario. Bonne soirée à vous.
Au plaisir. Merci beaucoup. Francisco Sanchez, entraîneur, ex-entraîneur de Leïla Fernández. On va aller à la pause et au retour, Guillaume Latendresse se joint à nous. Quelques sujets hockey, puis on va peut-être glisser sur le côté également du parrain Déa dans le monde du sport.